Les contes de l'Alhambra, une visite à l'Alhambra. Trois mois se sont écoulés depuis que j'ai fixé ma résidence à l'Alhambra, et pendant ce temps, le progrès de la saison a produit ses changements accoutumés. Lors de mon arrivée, tout était dans la première fraîcheur de mai. Le feuillage était encore d'un vert tendre et transparent. Le grenadier n'étalait pas encore ses corolles brillantes. Les vergers du xénil et du darreau étaient en pleine fleur. Les rochers tout couverts de plantes sauvages et de bruyères fleuries. Et grenades paraissaient entourées d'une campagne de roses, parmi lesquelles d'innombrables rossignols chantaient, non seulement la nuit, mais toute la journée. L'approche de l'été a fané les roses et rendu les rossignols muets. On voit au loin les plaines brûlées par le soleil, bien qu'une verdure éternelle règne autour de la ville et dans les étroites et profondes vallées de la base des montagnes neigeuses. L'Alhambra possède des retraites appropriées à tous les degrés de chaleur. La plus remarquable est l'appartement presque souterrain des Bains, qui conserve tout son caractère oriental, quoiqu'il porte l'empreinte mélancolique et touchante du déclin. On entre dans cet appartement par une petite cour, jadis ornée de fleurs, et l'on trouve d'abord une salle de moyenne grandeur, mais d'une architecture légère et gracieuse. Une petite galerie soutenue par des colonnes de marbre et des arceaux mauresques entoure la salle, au milieu de laquelle est une fontaine d'albâtre avec un jet d'eau. De chaque côté sont de profondes alcôves, avec des estrades sur lesquelles les baigneurs, nonchalamment étendus sur de riches coussins, étaient disposés à un repos voluptueux par le parfum de l'air et la douce musique que l'on exécutait dans les galeries. De cette salle, on passe dans les chambres intérieures, encore plus fraîches et plus retirées, où la lumière n'est admise que par de petites ouvertures des voûtes. C'était le Sanctum Sanctorum, où les belles du harem goûtaient les délices du bain. Un jour mystérieux règne partout. Les bains existent encore, mais brisés, et quelques vestiges d'ancienne élégance se montrent encore çà et là. Le silence et l'obscurité de ce lieu en ont fait la retraite favorite des chauves-souris, qui se nichent pendant le jour dans les coins les plus sombres. Et quand on vient à les troubler, elles volent, comme des ombres fantastiques, à travers ces pièces à demi éclairées, dont elles augmentent à un degré surprenant l'air de désolation et d'abandon. Dans cette élégante retraite, où l'on trouve la fraîcheur et la tranquillité d'une grotte, je passais dernièrement les heures les plus chaudes de la journée et ne sortais que vers le soir pour aller me baigner, ou plutôt nager, dans le grand réservoir de la cour principale. C'est ainsi que j'ai évité, jusqu'à un certain point, l'affaiblissement que produit ce climat brûlant. Mon rêve de souveraineté absolue a cependant pris fin. J'en fus tiré ces jours passés par un bruit d'armes à feu que répétaient les échos de la forteresse. On eût dit qu'elle allait être prise d'assaut. Je sortis et trouvai un vieux caballero avec un grand nombre de domestiques établis dans la salle des ambassadeurs. C'était un vieux comte qui était venu de son palais de Grenade passé quelque temps dans l'Alhambra pour respirer un air plus pur. En chasseur déterminé qu'il était ou avait été, il tâchait de gagner de l'appétit en tirant des balcons aux hirondelles. Et cet amusement n'avait rien que de très innocent. Car malgré la promptitude avec laquelle ces gens chargeaient les pièces et lui donnaient ainsi le moyen de faire un feu bien nourri, je ne puis l'accuser du meurtre d'un seul de ces oiseaux. Il semblait même prendre goût à ce jeu et se moquer de sa maladresse en rasant les balcons et en caquetant bruyamment lorsqu'il passait devant lui. L'arrivée du comte changea en quelque sorte la face des choses, mais elle me fournit de nouveaux sujets d'agréables méditations. Nous partageâmes tacitement l'empire entre nous, de même que les derniers rois de Grenade. Mais notre alliance fut plus constante et plus amicale. Il règne despotiquement sur la cour des lions et les salles adjacentes, et je garde la paisible possession de la région des bains et du petit jardin de l'Indaraxa. Nous prenons ensemble nos repas sous les portiques de la cour où les fontaines rafraîchissent l'air, où des ruisseaux murmurants coulent dans les canaux sous les dalles de marbre. Le soir, un cercle de famille se rassemble autour du vieux caballero. La comtesse vient de la ville avec une fille d'environ 16 ans, la joie et l'amour de ses parents. Quelques employés et dépendants du comte, son aumônier, son procureur, son secrétaire, son intendant et divers gérants de ses immenses possessions lui forment une espèce de cour domestique où chacun s'empresse de contribuer à son amusement, mais sans sacrifier son propre plaisir ou sa dignité. En effet, quoi que l'on puisse dire de l'orgueil espagnol, il ne se montre point dans la vie sociale ou intérieure. Chez aucun peuple, les relations de parenté ne sont plus douces, plus cordiales, et celles entre supérieurs et dépendants plus franches et plus honorables. Sous ces rapports, on retrouve encore en Espagne, surtout dans les provinces, beaucoup de la simplicité tant vantée des anciens temps. Le personnage le plus intéressant de ce cercle de famille est la fille du comte, la charmante petite Carmen. À peine sortie de l'enfance, sa taille n'a pas encore tout son développement, mais elle montre déjà l'exquise proportion, la grâce moelleuse, particulière aux femmes de son pays. Ses yeux bleus, son teint blanc et rosé, ses cheveux blonds dorés, charmes peu communs en Andalousie, donnent à son ensemble une douceur qui contraste avec la vivacité brillante de la beauté espagnole, mais s'accorde parfaitement avec la candeur, la confiante innocence de cet aimable enfant. Toutefois, elle possède la promptitude d'esprit, l'imagination mobile de ses séduisantes compatriotes. Elle chante, danse, joue de la guitare et de plusieurs autres instruments, d'une manière délicieuse. Peu de jours après son établissement dans l'Alhambra, le comte célébra le jour de sa fête. Il rassembla en cette occasion tous les membres de sa famille et de sa maison, auxquels se joignirent quelques anciens serviteurs venus de ses terres éloignées pour lui offrir leurs vœux et participer à sa bonne chère. Les mœurs patriarcales qui caractérisaient les nobles espagnols au temps de leur opulence ont décliné avec leur fortune. Mais quelques grands, tels que le comte, ayant conservé leurs anciennes possessions héréditaires, conservent aussi une partie des vieux usages, et leurs terres sont encombrées et presque dévoré par des générations de serviteurs inutiles. Dans ce système d'ancienne magnificence espagnole, auquel l'orgueil et la bonté avaient une égale part, un vieux domestique n'était jamais renvoyé, mais il devenait une charge de la terre pour le reste de ses jours. Et non seulement lui, mais ses enfants et petits-enfants, souvent même ses parents des deux côtés, se greffaient graduellement sur la famille. C'est à cet usage que l'on doit les vastes palais de la noblesse espagnole, qui ont une si singulière apparence de vaine ostentation quand on les compare à la médiocrité de leur ameublement. Ils étaient absolument nécessaires dans les beaux jours de l'Espagne pour contenir tous ceux que l'hospitalité et les habitudes de patriarches de leurs possesseurs rassemblaient autour d'eux. Le digne comte, qui possède des domaines dans toutes les parties du royaume, m'a déclaré que quelques-uns d'eux suffisaient à peine pour nourrir les hordes de dépendants qui s'y trouvaient attachés, et se croient le droit d'y être entretenus gratuitement parce que leurs ancêtres l'ont été de père en fils. La fête domestique du comte rompit l'uniformité habituelle de la vie de l'Alhambra. Le rire, la musique, résonnèrent dans des salles où régnait quelques jours auparavant un silence sépulcral. On voyait des groupes se livrer à toutes sortes d'amusements dans les galeries et les jardins. Et des valets empressés traversaient les cours, apportant de la ville des viandes et des provisions à l'ancienne cuisine qui était éclairée de feux inaccoutumés et peuplée, comme dans ses jours de gloire, de cuisiniers et de marmitons. Le festin, car un dîner espagnol est littéralement un festin, fut servi dans la belle salle nommée Sala de las dos hermanas, salon des deux sœurs. La table était chargée de mets, et la gaieté la plus communicative régnait parmi les convives. Car si l'espagnol est ordinairement sobre, il fait toujours complètement honneur à un banquet. Pour ma part, je trouvais quelque chose de très piquant à prendre place, dans les salles royales de l'Alhambra, à un repas donné par le représentant de l'un de ses plus célèbres conquérants. Car le vénérable comte, quoique peu belliqueux lui-même, descend en droite ligne du grand capitaine Gonzalve de Cordoue et conserve précieusement l'épée de ce guerrier illustre dans les archives de son palais à Grenade. Le banquet fini, la compagnie passa dans la salle des ambassadeurs. Là, chacun contribua, suivant ses moyens, à l'amusement général. L'on chanta, l'on improvisa, l'on conta des histoires, l'on dansa au son de la guitare, talisman irrésistible pour provoquer la gaieté espagnole. Mais la vie, le charme de ce rassemblement était la spirituelle et gracieuse Carmen. Elle remplit des rôles dans deux ou trois scènes de comédies espagnoles avec un talent dramatique très remarquable. Imita les chanteurs italiens à la mode de la manière la plus originale et la plus comique et avec une rare qualité de voix. Contrefit le jargon, les danses, les balades des bohémiens et des paysans des environs. Et tout cela avec une précision et en même temps une gentillesse vraiment ravissante. Mais ce qui faisait le plus grand charme de ces petites scènes, c'est qu'elles étaient tout à fait exemptes de prétention, de désir de briller. Cette jeune fille paraissait ignorer ses talents et ne les déployait en effet que par occasion, comme un enfant qui cherche à divertir ses parents. Cependant, il faut qu'elle ait un esprit d'observation très fin et très juste, car elle passe sa vie dans le sein de sa famille. Et sans doute elle n'a eu que peu d'occasion de saisir les divers traits des caractères qu'elle rendait avec tant de bonheur, et sans aucune préparation, seulement inspirée par la gaieté du moment. Il est doux de voir la tendresse et l'admiration avec lesquelles tous les gens de la maison la regardent. Les domestiques eux-mêmes ne l'appellent jamais que la Niña, la petite, appellation qui a quelque chose de singulièrement tendre dans la langue espagnole, surtout appliquée de cette manière. Jamais je ne penserai à mon séjour dans l'Alhambra sans me rappeler la jolie petite Carmen se jouant, dans l'innocente gaieté de son âge, au milieu des portiques, dansant au son des castagnettes mauresques, ou mêlant les accents argentins de sa voix à la musique des fontaines. À l'occasion de la fête du comte, plusieurs histoires amusantes et curieuses furent contées. La plupart se sont effacées de ma mémoire, mais parmi celles qui m'ont le plus frappée, je tâcherai d'en retrouver quelques-unes qui pourront peut-être divertir un instant le lecteur. Thank you.